Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
What time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 276 du podcast John Actuel. Amatei, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Il y a encore une fois Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
On vous rappelle d'abord que le podcast Tejon Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. C'est tous les dimanches encore cette année. Il reste des matchs de playoffs et ça se terminera en beauté, bien sûr, avec le Super Bowl. On sera là normalement pour encore une très belle soirée. On sera aussi au Hard Rock Café, je vous le rappelle, le 8 janvier et le 5 février. Le 8 janvier, c'est donc mardi prochain. Il y aura Sébastien Séjean, ancien membre du Practice Squad et du camp d'entraînement des Rams, qui sera là notamment, et un grand joueur français qui sera là pour répondre à nos questions, et n'hésitez pas à venir, vous pourrez donc le rencontrer aussi pendant cette soirée. C'est donc le 8 janvier à partir de 18h30, grosso modo on vous accueillera, 19h enregistrement de l'émission, et puis après ceux qui veulent rester manger restent manger. Grégory, cette semaine on va parler évidemment fin de la saison régulière, on connaît les affiches des playoffs, on sait aussi qui a déçu cette saison, on vous regarde, les Steelers et les Vikings, on sait quels coachs ont été virés, les leçons de tous les matchs, les tops, les flops, les coachs virés, le 2 minute warning. C'est encore un gros programme et c'est parti.
A fourth and ten, and here they come. Mayfield's pass is intercepted by Mosley, and the Ravens are going to take the division.
Ravens 26, Browns 24. Les Ravens sont en playoff, Grégory, mais ils ont eu chaud. Ils peuvent encore remercier leur défense, notamment Jimmy Smith, hein, ciblé 7 fois, une seule réception autorisée, 2 interceptions. C'est passé pas loin pour Baltimore, qui menait de 13 points. Ils se sont fait remonter, rapprocher à 3 points, avec un très bon Baker Mayfield par séquence. Il y a eu des hauts et des bas. Mais encore une fois, ils peuvent remercier leur défense et leur jeu au sol.
Oui, bah ça commence à devenir un petit peu une recette connue du côté de Baltimore, mais c'est sûr que ça a été un petit peu plus compliqué, et le fait notamment que le pass rush des Ravens était un peu mieux maîtrisé lors de cette 17e semaine, c'est pas totalement anodin non plus. On a vu que notamment sur le terrain des Chargers, ils se sont pas mal facilité la tâche grâce à ça, et contre Cleveland, alors que pourtant de ce qu'on avait vu depuis le début de la saison, ça paraissait être un match-up à la portée des Ravens. Bah, on voit également que la O-line des Browns a largement progressé. Elle a été capable de laisser du temps à Baker Mayfield, un peu moins de brèche au jeu au sol. Et c'est peut-être aussi ce qui a forcé Baker Mayfield à jouer un petit peu plus dans les airs et à tester un petit peu plus ce jeu aérien des Ravens, avec ce que t'expliquais, c'est-à-dire un jeu de qualité, on va dire, pour permettre à Cleveland de recoller en deuxième mi-temps, mais aussi des jeux très risqués, à l'image donc de cette dernière interception de CJ Mosley sur une quatrième, alors que les Browns étaient en bonne position. Ça fait partie de ses quelques regrets, ça ça fait partie en effet de ces quelques détails qui, encore une fois en cette fin de saison, ont tourné à l'avantage de Baltimore.
Ouais, 3 touchdowns, 3 interceptions pour Baker Mayfield, tu l'as dit, ils étaient en position éventuellement d'aller chercher un field goal de la victoire, ça n'est pas passé. Baltimore, 296 yards au sol, 179 yards dans les airs. Il y a un fumble de Lamar Jackson qui a failli leur coûter très cher au moment où il allait rentrer dans la end zone, il relâche le ballon et il y a un coup de sifflet des arbitres qui met fin à l'action. Alors que ça aurait quand même pu coûter un touchdown à Cleveland. Il y a de quoi avoir des regrets là-dessus,
ouais,
quand même. Hein.
Ça fait partie de cette. On va dire que. Alors, la première mi-temps de Cleveland est clairement pas bonne, puisqu'il rentre au vestiaire avec un désavantage de 20-7 au tableau d'affichage. Mais c'est vrai que quand on regarde la physionomie, notamment des deux dernières minutes, il y a un field goal loupé, il y a une réception qui est vendangée par Jarvis Landry alors qu'il est tout seul, il a plus qu'à filer dans l'embut, et il y a en effet ce coup de sifflet intempestif où on pense qu'il y a touchdown de Lamar Jackson, le ballon est recouvert par Jabril Peppers qui a plus qu'à filer dans l'embut adverse et qui s'arrête. Un peu la même configuration d'ailleurs que la finale AFC de l'année dernière avec le fumble de Miles Jack.
C'est vrai.
Et c'est sûr que du côté de Cleveland, quand on termine un match à 2 points de Baltimore, ça peut laisser quelques regrets. Alors après, le scénario aura peut-être été différent en deuxième mi-temps avec ce score des Browns, mais voilà, ça fait partie de ces éléments où Baltimore s'est fait un petit peu peur. Tu parlais des fumbles de Lamar Jackson, j'ai souvent vanté sa bonne discipline depuis sa prise de pouvoir au poste de quarterback. Là, voilà. Le fumble, on va dire sur le bras tendu pour obtenir le touchdown à la course. Bon, c'est une erreur de débutant, on va dire, mais c'est quand même difficile de se situer exactement quand on est aussi proche de l'embut. Il peut se dire qu'il était au-dessus de la ligne, alors que bon, ça se jouait pour une question de centimètres. C'est par contre, j'ai trouvé un peu plus compliqué le fait qu'on lui fasse jouer une toss par exemple sur le dernier drive offensif des Ravens avec le ballon relâché par Ty Montgomery. Voilà, c'est faut peut-être pas trop non plus forcer le trait, prendre un peu trop de risques avec Lamar Jackson. C'est un joueur qui dégage une assurance, un gros mental, et ça très clairement on peut pas lui retirer. Mais voilà, faut pas non plus griller les étapes et lui faire jouer des jeux un peu trop complexes. Et en playoff, il y aura des défenses clairement incisives et encore plus incisives que ce qu'ont montré les Browns ce week-end.
Il y a des failles quand même dans cette équipe de Baltimore. Ils vont aller en playoff du coup grâce à cette victoire, mais on l'a vu, ils menaient, ils avaient ce match en main, et puis les Browns ont réussi quelques gros coups offensifs pour déborder un peu cette défense. Ils ont fait souffrir Marlon Humphrey notamment, parce que j'ai cité Jimmy Smith qui a été bon, mais c'est qu'il y en a un qui a pris de l'autre côté s'ils ont passé 376 yards dans les airs. Donc il y a des failles là-dessus. S'il y a des big plays et s'il y a une équipe en face qui perd un peu moins de ballons, ils vont quand même mettre en danger quoi Baltimore, parce que ça reste très unidimensionnel, et à partir du moment où ils se contentent de field goal plutôt que de touchdown comme ils ont fait à un moment dans ce match, ça c'est quand même pas mal compliqué quoi.
Oui, non, mais très clairement, je pense que à mon sens les facteurs décisifs qu'il faudra surveiller pour Baltimore pendant les playoffs, c'est le jeu à la passe, que ce soit en attaque et en défense. Parce que c'est sûr qu'en attaque il y a ce rouleau compresseur au sol, ce jeu en option où on ne sait pas qui va garder le ballon et courir exploiter les brèches de la ligne offensive. Mais c'est sûr qu'au niveau de la passe, Lamar Jackson a montré des bonnes séquences d'improvisation, mais ça joue beaucoup plein centre, soupape de sécurité sur les tight ends avec Hayden Hurst et Mark Andrews. On peut pas dire qu'au niveau de ses receveurs, il y a beaucoup de jeux profonds, mais encore une fois, on va pas demander à Lamar Jackson de tout révolutionner alors qu'il jouait son 7e match en NFL. Donc voilà, ça va quand même être une donnée à surveiller en playoff. Et je le dis et je le répète, Cleveland a quand même montrer une possible faille de cette équipe de Baltimore, c'est que en effet, si t'as une ligne offensive, alors c'est facile à le dire comme ça, hein, mais si t'as une ligne offensive qui est capable de laisser un minimum de temps à ton quarterback, et que t'as pas un quarterback rookie comme Baker Mayfield qui peut avoir un jeu agressif et donc du coup est susceptible de se faire intercepter, là ça peut être compliqué. Donc ça va être clairement deux données à prendre en compte. Je pense que vraiment les Ravens seront énormément tributaires du jeu à la passe au cours du mois de janvier.
Et les Ravens tomberont pas non plus toutes les semaines sur une équipe qui accumulera 10 plaquages manqués, comme la défense des Browns. Il y a quand même eu des ratés aussi à ce niveau-là, et ça fait la différence sur une fin de match. Ceci étant dit, les Browns sortent quand même de la saison avec une belle dynamique, et y a des belles choses à attendre l'année prochaine pour eux. On y reviendra, on en a pas mal parlé ces dernières semaines, on y reviendra sur le site dans des fiches et d'autres choses. Mais même dans une défaite, ils terminent plutôt sur une bonne note, quoi. Ils sont plutôt sur quelque chose de dynamique. Maintenant, il faut trouver le bon coach, quoi.
C'est ça. Alors, je sais pas si. Alors, justement, ça dépend clairement du coach qu'ils vont nommer. très franchement, je suis pas un fan de Greg Williams. Vraiment, le personnage, j'aime pas du tout. Après, mine de rien, en regardant de près, ça colle aussi avec la personnalité d'un Baker Mayfield. On a deux personnes de gros caractères, voilà, qui aiment bien aussi. Et je pense que c'est peut-être ça aussi le problème avec Hugh Jackson, c'est que je pense que Mayfield est peut-être devenu trop rapidement l'alpha par rapport à son head coach.
C'est vrai.
Et que là, on a peut-être deux grandes gueules, deux personnes de caractère qui ont cette mentalité de gagnant et qui peut convenir à Baker Mayfield. Donc bon, je sais pas quelle direction vont prendre les Browns. Greg Williams va de nouveau être interviewé comme d'autres candidats au cours des prochains jours, mais je suis pas sûr que un nouveau bouleversement du côté de Cleveland ce soit la bonne solution à l'heure actuelle.
Ouais, non mais clairement, Greg Williams, je suis un peu comme toi, le personnage est un peu spécial, mais il faut reconnaître ce qu'il a fait aussi ces derniers temps. Après, ils sont comme beaucoup d'équipes, ils ont énormément d'entretiens d'embauche là qui sont en train de s'aligner, donc ça va quand même être la loterie un petit peu. Steelers 16, Bengals 13, c'est la conséquence de la victoire des Ravens. Les Steelers sont éliminés malgré cette victoire très difficile. Antonio Brown était absent de ce match à cause d'une embrouille à l'entraînement. C'est sorti quelques heures avant notre enregistrement. Apparemment, embrouille à l'entraînement avec Ben Roethlisberger. Ensuite, il n'est pas venu à l'entraînement ou réunion. Il est venu au stade. Alors, on a prétexté une blessure au genou officiellement, mais finalement c'était plutôt à cause de l'embrouille qui n'était pas sur le terrain. Il aurait quitté le stade à la mi-temps, il n'était pas là pour la réunion de bilan de fin de saison du lundi de Mike Tomlin. Est-ce que ça se résume pas un peu à ça, leur saison? Beaucoup de talent, mais beaucoup trop de drama, comme on dit en anglais. Je sais pas comment on traduit drama précisément, mais je trouve que ça colle bien, quoi. C'est
beaucoup de facéties en interne, et malheureusement c'est ce qui ressort un petit peu trop. Moi honnêtement, alors je sais que j'ai fait l'article notamment sur les coachs qui étaient susceptibles de sauter en fin de semaine dernière, et en effet j'avais ciblé notamment Mike Tomlin. Enfin, ça fait quelques jours maintenant que j'en parle, et je sais que même toi, même au sein de la rédaction, je sais que beaucoup n'étaient pas forcément d'accord. Après, encore une fois, moi ce qui m'embête un petit peu avec Mike Tomlin, c'est que c'est sûrement un bon coach, mais le rôle d'un head coach en NFL, c'est aussi un rôle d'assistante sociale. Et là, on a aussi l'impression que ça craque un peu partout du côté de cette équipe de Pittsburgh. C'est-à-dire qu'on a une défense qui, en effet, est solide, a des bons noms, des TJ Watt, des Cam Ward, des Joyden, hein, qui a fait une bonne saison 2018. Mais c'est d'une irrégularité chronique, il y a une baisse de mental d'un match à l'autre, il y a des défaites qui font tâche contre les Raiders, contre les Broncos, le nul sur le terrain des Browns où ce match-là ils doivent le gagner à peu près 100 fois. Et je suis désolé, alors c'est peut-être bête à dire, mais pour moi on se doit d'être encore plus exigeant pour une équipe comme Pittsburgh, qui est une équipe historique, qui se doit d'avoir une identité assez forte, avec un gros mental, etc. Et en effet, c'est pas ce qu'on voit. Et en attaque, alors on pourra dire que Le'Veon Bell se sera arrivé avec un autre head coach, mais je trouve que notamment Big Ben, avec tout ce qu'on peut lui donner comme qualité, son leadership, etc., je trouve que depuis qu'on lui donne vraiment les clés du camion, il se passe beaucoup de choses. Faut pas oublier que cette saison, il a notamment critiqué ouvertement ses receveurs dans les médias, ce qui me paraît pas forcément nécessaire. L'année dernière, on pointait du doigt Todd Haley, mais on se rend compte que voilà, il y a quand même des problèmes relationnels qui sont toujours là en attaque avec justement cette situation avec Antonio Brown. Donc moi, ça me pose question. Est-ce que Mike Tomlin gère toujours la situation? J'en suis pas persuadé à l'heure actuelle.
Alors après, moi je te rejoins hein, sur l'ensemble de ça, c'est-à-dire que j'ai dit notamment dans le fauteuil dimanche que si tu veux virer Tomlin, le plus dur c'est d'être sûr que tu as quelqu'un d'aussi bon aligné derrière.
Oui, bien sûr.
Après, je ne dis pas que ça n'existe pas, et je ne dis pas que ce serait pas une bonne solution non plus. Je disais juste qu'il faut en être plus ou moins assuré, sachant qu'il y a un vestiaire quand même assez turbulent, des vétérans, des mecs à qui il faut imposer le respect, donc c'est pas évident de trouver un profil pour une équipe qui joue le titre en fait quasiment déjà. Alors il n'y a aucun profil facile quand tu viens un coach, mais voilà. Et après, moi je te rejoins au sens où j'avais aussi un peu les mêmes arguments, et l'an dernier je m'en rappelle avoir plutôt dit qu'il était peut-être temps de tourner la page Tomlin aussi. Et là où c'est inquiétant, c'est que c'est récurrent surtout, c'est que tout ce que tu as dit là, ça arrive une année après après l'autre, après l'autre, après l'autre. Les embrouilles un petit peu bizarres de vestiaire, les matchs perdus sans raison, ou en tout cas qui étaient gagnables, les errements de fin de saison, les erreurs, etc. Et donc là où je te rejoins, en effet, c'est, ce qui devient compliqué, c'est de refaire tout le temps la même chose en attendant des résultats différents. C'est un peu le cliché de dire c'est la définition de la folie. Mais aujourd'hui, ils en sont là, les Steelers. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ils ont une bonne défense. TJ Watt a encore un sac sur ce match parce qu'on parle pas vraiment du match. Alors, c'est un 16-13, c'est pas un grand match.
Ah oui, c'est
gagné,
pas...
ils ont gagné.
C'était pas passionnant.
Mais
ouais.
Ils ont une bonne défense qui a fait ce qu'elle a eu à faire. Joe Mixon a vraiment un gros run, mais derrière, ils ont plutôt dominé. Jeff Driscoll a pas fait grand chose, donc ça tombe mieux. Mais derrière, ils ont une attaque, comme tu le disais, avec Ben Roethlisberger, avec James Conner, avec Le'Veon Bell qui est à la maison, avec Antonio Brown qui du coup finit à la maison, avec Juju Smith-Schuster. Ils ont quand même la première équipe à avoir deux receveurs à plus de 100 réceptions ou 100. Ouais, c'est 100 réceptions et 1200 yards. C'est la première fois qu'il y a une équipe qui a deux receveurs à 100 réceptions et 1200 yards sur la saison. Donc il y a énormément de choses. Et pourtant, ils n'ont pas la régularité. Ils devraient être en play-off. C'est quand même le minimum.
Mais tu sais...
Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et surtout, je ne sais pas ce qu'ils peuvent changer, en fait.
Mais,
c'est ça, mon problème.
Bah, c'est pour ça que moi, je cible Tomlin. Encore une fois, il y a beaucoup de coachs sur lesquels on va dire « Ouais, on tape facilement. » Mais Mike Tomlin, il ne faut quand même pas oublier dans quel contexte il arrive. Il arrive à Pittsburgh au lendemain d'un Super Bowl 40 qui a été gagné par Pittsburgh avec Bill Cowher. Il récupère une équipe qui a été construite par Cowher avec Dick Lebeau, qui était coordinateur défensif à l'époque, qui avait une main de maître sur cette défense avec déjà plein de playmakers. Il n'est pas arrivé comme d'autres coachs en disant « je suis le coach hyper novateur qui va tout changer ». Il est arrivé pour être un coach entre guillemets mental, pour être quelqu'un qui va booster le vestiaire. Et très clairement, c'est pas l'impression qu'on en a. Et voilà, et je parle de l'environnement dans lequel il arrive. Il a quand même, selon moi, un des meilleurs general managers de la ligue avec Kevin Colbert, qui va chercher chaque année des pépites, qui à chaque fois a un coup d'avance. C'est lui qui, il y a deux ans de ça, va chercher James Conner et Juju Smith-Schuster, des joueurs qui aujourd'hui ont la prétention d'être des running backs et des receveurs numéro 1 dans l'équipe. Et malgré tout ça, malgré ce bon cadre général, eh ben on se retrouve avec une équipe de Pittsburgh qui glisse sur la peau de banane presque volontairement. Donc pour moi, c'est pour ça que va peut-être y avoir des changements en interne. Oui, peut-être que Keith Butler, le coordinateur défensif, va peut-être être viré, peut-être que le coach des équipes spéciales également va sauter, mais je suis pas persuadé qu'à long terme ce soit salvateur pour Pittsburgh.
Et en termes de dossier compliqué, du coup, Antonio Brown, on fait quoi?
Alors écoute, je sais que t'en as parlé dans l'article que t'as publié ce mardi. Très sincèrement, je sais que Santonio Holmes et Mike Wallace, pour moins que ça, ont été dégagés par Pittsburgh. Donc ça aussi, honnêtement, j'ai du mal à voir ou Tomlin ou Brown, enfin Tomlin et Brown ensemble la saison prochaine à Pittsburgh.
Ouais.
Je pense que Tomlin a beaucoup couvert Brown et qu'à un moment donné, oui, il va falloir faire des décisions, surtout avec la grosse saison, t'en parlais de Smith-Schuster.
C'est ça, je pense que c'est un peu ce qu'on relaye dans l'article, la phrase que NFL Media rapporte de Tomlin, qui est de dire « on te supporte tant qu'on ne peut pas te remplacer ». Je pense que maintenant qu'ils ont Smith-Schuster, a priori, il n'y a pas de raison de s'embêter avec ça, surtout s'ils peuvent tirer une grosse contrepartie. Alors, j'aime pas faire des infos avec ce genre de tweets, mais ils commencent déjà à faire de l'œil aux mecs des 49ers sur Twitter en leur envoyant des messages et des trucs comme ça. S'il a envie de partir et qu'il y a une équipe qui est prête à payer cher, après tout, pourquoi pas, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc,
business, hein.
Un petit mot sur les Bengals quand même, parce qu'ils ont plutôt bien défendu. Ils limitent Pittsburgh à 5 sur 15 sur les 3e tentatives. Il y a un beau duo de safety avec Sean Williams qui a une interception, et le rookie Jesse Bates, dont on a peu parlé parce que c'est vrai que les Bengals n'ont pas été en vue cette saison, mais il a aucune réception autorisée, 2 passes déviées. Donc il y a des points positifs aussi dans cette équipe de Cincinnati.
Oui, enfin, de toute façon, on a souvent dit que sur le papier ça restait une belle équipe. Après, enfin voilà, pour le coup, je parlais de marasme, de léger marasme du côté de Pittsburgh. Là, très clairement, du côté de Cincinnati, ça fait quand même un petit moment que ça sent le pâté, si je peux parler ainsi. Mais en tout cas, oui, qu'il n'y a pas une énergie, un dynamisme fou, je pense, au niveau du vestiaire. Mais il y a très clairement de bons joueurs. Marvin Lewis sait relativement bien drafter des joueurs. Après, il faut réussir à les faire vraiment pleinement adhérer, à les discipliner déjà dans un premier temps et à faire en sorte qu'ils rentrent dans le projet et qu'ils exploitent le système comme il faut. Et malheureusement, j'ai pas la sensation que ce soit le cas du côté de Cincinnati. Et trop souvent sur des fins de match un peu voilà, un peu chaude. On a vu Cincinnati craquer un peu, et notamment des fins de saison. C'était déjà le cas l'année dernière, où les Bengals ont totalement lâché. Ils finissent à 6-10 alors qu'ils devaient être à 5-3 à un moment donné.
Ils avaient plutôt bien commencé, ouais.
Donc,
ils avaient plutôt bien commencé.
Voilà, c'est... Bon, c'est... Il y a enfin un nouveau début qui s'amorce du côté de Cincinnati depuis 2003.
Marvin Lewis est finalement licencié. Alors on l'a dit plusieurs fois hein, ici. Il était quand même temps de tourner la page. Ça fait depuis 2003 qu'il était en place. Il a qualifié souvent hein, l'équipe pour les playoffs, ce qui était déjà ça. Et on nous l'a fait remarquer même dans les commentaires en disant vous êtes dur en mettant. Il a enfin viré. Il les a quand même emmenés en playoffs. C'est quand même mieux que ce que faisait la franchise avant. Oui, mais bon, il a quand même jamais gagné un seul match de playoffs en 16 ans. Donc ça commence à faire.
C'est un bon, c'est un bon fondateur, mais c'est un sous Andy Reid.
Ouf, oui, d'accord. Titans 17, Colts 33, c'était le match de playoff de la soirée puisque le vainqueur allait en playoff. Les Colts se sont imposés plutôt tranquillement. Ils ont dominé le match, 158 yards au sol. On a l'impression qu'ils ont même un peu pris les Titans à leur propre jeu dans ce match. Ils ont été plus physiques, ils ont imposé le jeu au sol et puis derrière, ils ont été propres.
Ouais, enfin, malheureusement, c'est un peu ce à quoi on s'attendait du côté de Tennessee. Et bon, c'est sûr que l'absence de confirmée de Marcus Mariota n'a pas aidé en ce sens. Mais voilà, c'est Derrick Henry et pas grand-chose en attaque, quoi.
Ouais, et celle de Juril Kazay, parce que du coup, les Colts s'imposent le jeu au sol en profitant de l'absence de Juril Kazay.
Mais c'est sûr que autant défensivement, il pouvait y avoir d'autres menaces, qui n'a pas forcément été le cas sur cette rencontre, mais il y aurait pu y avoir d'autres menaces du côté de Tennessee, qui en plus, souvent cette saison, est efficace sur le run stop. Là, contre Marlon Mack, ils ont un peu galéré quand même. Et voilà, en attaque, quand c'est aussi rédhibitoire et quand t'as un seul joueur qui fait... C'est le seul qui a des portées de balle au niveau du jeu au sol. Déjà, ça rend dur. C'est-à-dire qu'on fait courir personne d'autre, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est une interrogation. Je sais pas si tu allais me poser la question sur Mike Vrabel, mais très clairement, j'ai du mal à voir le gros changement qui était censé avoir lieu entre Mike Mularkey et Mike Vrabel cette saison.
Ouais, c'était une de mes questions. C'était surtout ça, parce qu'a priori, ils vont quand même garder Marcus Mariota, sauf grosse surprise. Donc, je me demande quelle est la marge de progression de cette équipe à l'heure actuelle. J'ai un peu de mal à la voir.
Bah écoute, peut-être continuer à progresser défensivement. C'est sûr qu'il y a eu peut-être des meilleures choses. Une équipe peut-être un peu plus solide au niveau du run-stop notamment. Après, va falloir quand même reconstruire. On ne sait pas ce qui va devenir de Dean Pease qui a eu des problèmes de santé cette saison, le coordinateur. Brian Orakpo a pris sa retraite très récemment, mais bon, il n'avait plus trop un énorme impact dans cette défense de Tennessee. Donc, mais il y a encore cette identité à trouver et visiblement l'osmose entre Mariota et son coordinateur n'a pas été parfaite tout au long de la saison. Donc voilà, on en saura un petit peu plus dans la saison 2, mais pour l'instant c'est pas hyper réjouissant par rapport à la saison passée.
Non, et sur ce match, tu l'as dit, hein, c'était Blaine Gabbert, donc le titulaire, 18 sur 29, 165 yards, un touchdown, deux interceptions. Il n'y a pas vraiment eu de pression sur lui, mais il n'y a pas eu de danger pour autant. Il est quand même pas hyper à l'aise. Donc ça a fait en effet ce qu'on attendait. Luck en face est à 24 sur 35, 285 yards, trois touchdowns, une interception. Il fait quand même pas mal tourner le ballon, il fait briller ses coéquipiers. Donc c'est pas une grosse surprise. On reparlera des Colts dans la preview de jeudi notamment parce qu'ils seront au premier tour des playoffs, donc grâce à cette victoire.
Ils étaient à 1-5 hein, les Colts. Ça, on prend les comparaisons avec les Bengals tout à l'heure, ils ont quand même démarré avec 5 défaites sur les 6 premiers matchs, donc vraiment
vrai.
Un gros virage qui a été pris. Ouais.
C'est vrai, énorme fin de saison d'Indianapolis, du coup, puisqu'ils terminent sur 10 victoires en 11 matchs ou 9 victoires en 10 matchs, j'ai un trou du coup.
Ça doit être ça, 9 victoires en. Alors attends,
oui, c'est ça.
Si je sais compter, oui, c'est ça, 9 victoires en 10 matchs.
C'est ça, 9 sur 10. Vikings 10, Bears 24. Après les Steelers, l'autre grosse déception de la saison, c'est les Vikings dans la NFC. Est-ce que c'est la faute de Kirk Cousins ou pas?
Bah, il fait pas un bon match quand même.
Non, pas du tout.
Je suis pas un grand fan parce que c'est vrai qu'il y a cette petite habitude depuis la période franchise tag de Cousins à Washington. On a un peu ce Cousins bashing chaque saison à nous dire c'est un feu de paille, mais ah oui, deuxième bonne saison, mais c'est encore un feu de paille, etc., etc. Il y a une espèce de jurisprudence flaco, mais. Honnêtement, c'est sûr que voilà, là, c'était un match qui comptait et bon, il fait clairement pas une bonne rencontre. Après, on en revient toujours à la même chose. Il y a eu un changement de coordinateur et j'en parlais la semaine dernière. Il me semble, c'était pas pour être volontairement désagréable avec les Lions et les Dolphins, mais là, très clairement, ils ont affronté une défense d'un tout autre calibre. Et là, la ligne offensive, elle a quand même pris l'eau de toutes parts. et ça va clairement être un énorme chantier du côté de Minnesota pendant l'intersaison au niveau de cette ligne offensive, parce que voilà, Kirk Cousins c'est pas productif, mais il y a jamais eu un jeu au sol performant. Et je serais vraiment critique sur Cousins si, notamment, ça avait occasionné une baisse de production pour Thielen et Diggs. J'ai pas la sensation que ce soit le cas cette année. Donc,
mais en fait, il y a plein de, ouais, il y a plein de choses qu'on donne là. Mais Cousins, pour le premier dossier, tu l'as dit, mauvais match. Il a 20 sur 33, 132 yards, un touchdown.
Je te coupe, mais ils font 1 sur 11, non, sur troisième tentative?
Oui, ouais, ils font 1 sur 11 sur troisième tentative. Donc, il est clairement, parce qu'on m'a dit que je l'avais défendu dans les leçons de la semaine. Alors, je le défendais pas clairement. Je mettais en perspective le fait qu'il n'était pas le seul quarterback à gros contrat à pas être en playoff, puisque les 5 ou 6 premiers sont pas en playoff. Donc ça, c'est une chose. Mais le fait est qu'en effet, Kirk Cousins a un problème avec les gros matchs, visiblement. Il est à 4 victoires pour 25 défaites contre les équipes avec un bilan positif. Donc évidemment, il y a des facteurs extérieurs qu'on va aborder et qu'on est en train d'aborder aussi. Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air quand même à l'aise dans les gros matchs. Ça, c'est quand même un point, et le bilan est quand même là, donc c'est quand même un peu compliqué. Après, tu l'as dit, il y a quand même des facteurs autour. Il a été sous pression sur la moitié des snaps où il tente une passe, donc la ligne ne l'aide pas. Le changement de coordinateur offensif a plus l'air vraiment d'avoir eu lieu, puisqu'ils ont eu un énorme match au sol dans la foulée du licenciement de Filippo. Et puis derrière, on est revenu à l'absence de jeu au sol, comme tu l'as dit. Donc voilà, il y a ça qui joue, c'est un tout, mais Cousins n'est pas exempt de tout reproche. Voilà. Moi, je pense pas que ce soit la faute de son salaire, de son machin, etc. Il a été le joueur qui l'est depuis quelques années, avec les limitations qui vont avec, et s'il n'est pas un minimum protégé et entouré de jeux au sol, mais un peu comme à Washington, d'ailleurs. Ça fait quelque chose de compliqué.
Oui, apparemment, avant qu'il signe dans une équipe, il doit demander est-ce que le jeu au sol est bon ou pas. Non, il est nul.
C'est
bon,
ça.
Signe. Non, mais voilà, alors... c'est sûr que poste de garde, voilà, il y a eu trop d'interrogations et c'est là où le bas blesse. Et encore une fois, c'est ce qui doit être vraiment considéré.
Et il n'a pas été aidé non plus par la défense, qui a autorisé un 8 sur 14 sur troisième tentative aux Bears, puisqu'on parlait du 1 sur 11 de Minnesota. Chicago est à 8 sur 14, ils ont mangé le chrono quand ils voulaient, ils terminent avec 169 yards au sol, et en fin de match, ils mettent les touchdowns qu'il faut, ils mettent les points qu'il faut, et après, c'est tout à leur honneur aussi. Mitchell Trubisky est très propre, 18 sur 26 à 163 yards, alors c'est pas un énorme match, mais ils vont pas être bons à jouer en janvier s'ils restent aussi efficaces, eux.
Oui, non, clairement, Chicago, ça va être l'équipe, ça va être une équipe poil à gratter, où forcément, chaque semaine, on va dire, mais tu prenais la comparaison il y a quelques semaines, mais on va clairement être dans l'exemple des Bears 2006, avec Rex Grossman, qui était le maillon faible de cette équipe de Chicago, mais ce qui n'a pas empêché les Bears d'atteindre le Super Bowl à l'époque. Alors là, à l'époque, ils avaient l'avantage de terminer premier de la conférence nationale, ce qui ne sera pas le cas cette année, parce que vous aurez passé ou par Los Angeles ou par New Orleans pour espérer atteindre la finale. Mais...
Et du coup, il y a un match de plus.
Ouais, du coup, il y a un match. Oui, forcément, oui, il y a un match de plus à disputer. Et en plus, ils auront un petit test en première semaine, mais ça, on aura le temps d'y revenir. Mais voilà, défensivement, en tout cas, c'est clairement une équipe qui peut faire des jouets de n'importe quelle formation. Enfin, tu prends une équipe comme les Saints, par exemple, s'ils se retrouvent contre Drew Brees, voilà, c'est parfaitement une équipe qui est capable de stopper les Saints dans différents domaines. Donc après, il faut réussir à trouver les clés en attaque, mais...
Ils les ont pas battus cette année, d'ailleurs ?
Non, Chicago, ils se sont pas joués, je crois.
Ils sont pas joués, autant pour moi. J'avais un souvenir. Non, c'est les Rams que les Bears sont.
Oui, ils ont battu les Rams.
C'est ça, voilà. Je pense.
Mais voilà, ils sont capables de faire dérailler une équipe, une grosse attaque. Ils l'ont déjà démontré cette année. Après, il faudra le faire à l'extérieur. Ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible en playoff. La première fois qu'on voit ça.
Je pensais grosse attaque, c'était les Rams. Un dernier mot sur les Vikings. Est-ce que c'est un peu la même problématique que Pittsburgh, au sens où, sur le papier, l'effectif est blindé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux, quoi?
Je persiste et signe. La ligne offensive, pour moi, ça me paraît important. Et puis, les tranchées, en règle générale, je pense qu'ils ont peut-être plus autant de playmakers que ça sur la ligne défensive. Je parle au milieu, hein, en tout cas, parce que c'est sûr que le duo Hunter-Griffin, sur le papier, c'est quand même assez costaud. Peut-être blinder un petit peu ce poste de defensive tackle. Et puis, voilà, tout simplement, être beaucoup plus incisif dans les tranchées. Peut-être mettre un peu de concurrence à Dalvin Cook par le biais de la free agency, ce sera à voir. Latavius Murray a eu quelques fulgurances, mais est-ce que c'est vraiment un joueur qui est capable d'être un prétendant en tant que running back numéro 1? J'en suis pas persuadé. Après, bon, comme tu dis, il n'y a pas énormément de choses à corriger, mais je pense qu'il faut quand même faire vite parce que ça, on le souligne peut-être pas assez, mais j'ai vu quand même qu'il y avait des rumeurs par rapport à ça qui a démenti Mike Zimmer. Mais le head coach des Vikings n'est pas tout jeune, il a la soixantaine bien avancée, et voilà, là pour le coup, la fenêtre au niveau de ce cycle-là des Vikings pourrait se refermer assez vite, donc vite falloir trouver des solutions.
Et puis Zimmer, il a eu des problèmes de santé, hein, oui, je crois que c'était au niveau de l'œil notamment l'an dernier, où c'était c'était assez lourd quand même. Redskins 0, Eagles 24, les Eagles sont en play-off, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ce match-là en particulier? Parce qu'ils jouaient quand même contre une équipe assez décimée des Redskins qui a gagné 89 yards au total, donc pour ainsi dire que dalle, il y a des mecs qui trébuchent en avant et qui gagnent plus en NFL, donc il n'y avait rien du côté Redskins. Est-ce qu'il y a quand même des leçons côté Eagles?
Oui, quand même, parce que il y a une prestation assez solide de la part de Nick Foles, malgré son petit souci aux côtes, même si a priori ça devrait être bon pour le prochain match de playoff. Il a quand même rendu une copie assez solide et dans le sillage de ce qu'on avait vu face à Houston. On a un jeu au sol qui a été également de nouveau un peu plus productif, 129 yards au total, même si c'est contre la défense de Washington qui est un peu en roue libre, c'est à mettre à leur crédit. Il y a une connexion qui se fait avec Nelson Agholor, et puis surtout, ce que je trouve intéressant pour les Eagles, c'est que des deux côtés de la ligne, c'est un peu plus incisif. On a une ligne offensive qui était sur courant alternatif depuis le début de la saison et qui là, très clairement, au moment où ça compte, protège très efficacement, notamment Nick Foles et libère des brèches. Et puis la ligne défensive, on s'en est donné à cœur joie. Michael Bennett, Fletcher Cox notamment, qui a fait vivre un enfer à ses alter ego. Donc il y a quand même, des motifs d'espoir, même si en effet, c'est Washington est plus devenu un match référence vu leurs soucis de cette deuxième partie de saison.
Ouais, 3 sacs pour Fletcher Cox, hein, pour Michael Bennett, tu l'as dit. Moi, je pense que c'est aussi ça, c'est les lignes. Après, Alshon Jeffrey et Nelson Agholor qui se réveillent, c'est quand même pas mal aussi. Nick Foles qui complète 25 passes de suite, c'est pas mal. Enfin, il y a des bons éléments. J'ai toujours du mal à y croire dans l'optique des playoffs face à des équipes qui ont quand même été beaucoup plus régulières sur beaucoup plus longtemps cette saison. Mais a priori, il y a quand même des éléments positifs. Nick Foles va bien, on va voir s'il va se faire trop caresser les côtes, ça va jouer les Bears en plus, donc bon courage, mais ça va être un match-up quand même hyper intéressant. On en reparlera, alors c'est Raphaël et Raoul qui sont sur l'émission de jeudi, mais ils en reparleront. Ça va être quand même un premier tour de playoff assez superbe par rapport à ce qu'on a eu sur certains matchs les dernières années, où il y a toujours un ou deux matchs qui n'étaient pas très intéressants. Là honnêtement, j'ai envie de voir les quatre, hein. La semaine prochaine ça va quand même être du très très lourd. Voilà donc pour les principales affiches de la semaine, petit jingle et la suite.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand, wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand, wearing a bulletproof vest.
À voir tes mouvements de tête, Grégory, j'ai l'impression que tu préfères Streetlight Manifesto à Travis Scott de la semaine dernière.
Un petit peu.
Rams 48, 49ers 32. La ligne offensive des Rams est la clé de leur jeu au sol, plus que Todd Gurley, ou j'ai loupé quelque chose? 132 yards en tout cas pour CJ Anderson. Évidemment, je ne minimise pas l'impact de Todd Gurley, mais c'est bon à savoir pour leur ligne offensive.
Oui, enfin, c'est rassurant en tout cas sur le jeu au sol. De toute façon, de ce qu'on disait par rapport à Jared Goff et de ce qu'on en avait vu, je pense notamment au match contre les Bears, même si bon, c'est pareil, Chicago, c'est un peu difficile de pas contextualiser les rencontres face à eux, mais voilà, l'intérieur de la ligne est quand même assez solide. C'est peut-être sur les extérieurs qu'il faudra surveiller ça en playoff, avec notamment l'interrogation du mental pour Jared Goff, mais c'est sûr qu'au niveau du jeu au sol, en tout cas, c'est de bon augure, et le retour de Jared Goff devrait pas perturber les choses. Il va avoir 15 jours pour bien se remettre de ses pépins physiques.
Le retour de Todd Gurley, tu veux dire?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Jared Goff.
Oui, pardon, le retour de Top Gear, là, je suis fatigué, moi.
C'est pas grave. On est un lendemain de nouvel an.
Il y en a qui ont
an.
Fêté le réveillon trop longtemps.
Voilà.
Oui, voilà. Son retour va être en tout cas salvateur. Si en plus, il peut avoir une double menace avec CJ Anderson derrière, on va pas se priver, je pense, du côté de Chad McVay.
Ouais, la mode est à la course. Alors, si maintenant, en plus, ils ont CJ Anderson qui peut empiler derrière Todd Gurley, ça fera jamais de mal en playoff. Aaron Donald a encore fait des trucs. Ils ont montré qu'ils peuvent faire des choses en défense, plus dans le playmaking que dans l'efficacité permanente. C'est pas les Bears. Les 49ers se sont bien battus quand même, les ballons perdus les tuent, il y a 3 interceptions, un fumble, mais ils ont un bel avenir, notamment avec George Kittle, le tight end le plus productif de l'histoire sur une saison quand même, ce qui est pas rien, sachant qu'il joue avec 3 quarterbacks différents.
Oui, bah en tout cas, il rejoint pas mal de tight end assez prestigieux. Je pense que s'il y a 2 saisons de ça, on m'aurait dit que George Kittle serait un des tight end les plus productifs de la ligue, j'aurais pas cru.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, c'est bien. On a trouvé Kyle Shanahan a trouvé la soupape de sécurité de son système offensif. Et même plus que la soupape de sécurité, puisque notamment sur les yards après réception, il est extrêmement précieux. Et c'est aussi ce qui explique cette productivité en termes de yards. C'est. Du côté de San Francisco, pour l'instant, c'est pas mal. Le jeu au sol tourne assez souvent bien dans le système de Shanahan. Le quarterback doit revenir la saison prochaine. Le tight end est là. La ligne offensive, les cartes avancent également. Ça se met en place. Peut-être un petit receveur numéro 1. Peut-être un genre dont on parlait en début d'émission, qui sait.
Oui,
en tout cas, c'est de bon augure là aussi. Mais voilà. En marquant 32 points aux Rams et en prendre 48, c'est compliqué de réussir à les taper.
Moi, je l'ai dit sur le site, c'est bien de finir avec des motifs d'espoir toutes les saisons. C'est que maintenant, il va falloir que tous leurs motifs d'espoir jouent en même temps sur le terrain et qu'ils arrivent
à faire. C'est un peu ça. Parce qu'on disait plus ou moins la même chose l'année dernière de San Francisco en disant ouais, Garoppolo l'année prochaine, ça va être bien. Et ouais.
Seahawks 27, Cardinals 24. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir les Seahawks avoir besoin d'un field goal en fin de match pour battre la pire équipe de la ligue alors qu'ils doivent aborder les playoffs dans une semaine?
Bah, faut s'inquiéter dans le sens où ils se sont également un petit peu tiré une balle dans le pied tout seul, notamment au niveau des équipes spéciales. Ça a souvent été, en tout cas ces dernières années, j'avais la sensation que c'était quand même une escouade qui était assez réputée du côté de Seattle. Là, ça fait quand même pas mal de fois cette saison, et là pour le coup, c'est un match qu'ils ont failli perdre aussi à cause de ça, avec il me semble quelques punts bloqués. Donc bon, ça va être très clairement une donnée à surveiller en playoff, parce que les équipes spéciales, ça reste quelque chose à ne jamais prendre à la légère dans ce genre de situation. Mais bon, après, on a encore un énorme Chris Carson qui, pour une fois qu'il fait une saison complète, porte une nouvelle fois le jeu au sol de Seattle sur ses épaules. Donc,
Et
Russell Wilson qui, sans forcer, fait son match.
C'est ça, moi je pense qu'il faut surtout retenir le positif. C'est 182 yards au sol, 6 sacks pour la défense, 3 fumbles forcés et quelques actions décisives de Russell Wilson. Donc à partir de là, il n'y a pas de panique là-dessus.
Et comme d'habitude, on ne les découvre pas, mais alors Frank Clark et Jaren Reed qui ont encore été énormes sur la D-line, ça va être deux joueurs à surveiller de près aussi.
Et Steve Wilkes est viré pour les Cardinals. Est-ce que c'est l'attaque qui lui a fait du mal et qui a enterré, parce que la défense du coup était accrocheuse sur ce match, ils ont 6 sacs aussi je crois d'ailleurs, mais l'attaque lui fait du mal. Il y a un Josh Rosen alors qui reste une énigme après sa saison rookie, qui est un peu victime de sa ligne. Est-ce qu'il est totalement victime de sa ligne, pas que, enfin c'est un peu compliqué.
Alors pour répondre à ta première question, oui, c'est clairement l'attaque qui, je pense, lui a mis la tête dedans, parce que très clairement, quand on voit l'investissement qu'a mis Arizona sur la table pour un franchise quarterback annoncé, c'était pas possible d'avoir une attaque aussi anémique que ça, même si en effet c'était pas le seul point noir. Est-ce qu'on n'a pas dans l'idée du côté d'Arizona de prendre plutôt un coach à mentalité offensive? Il me semble avoir vu qu'ils étaient intéressés par le coach des quarterbacks des Rams, Zach Taylor.
Oui.
Et alors, on bâche beaucoup Josh Rosen pour sa première année. Rappelons-nous de la première année de Jared Goff, sous l'ère de Jeff Fisher. On n'est pas à l'abri qu'avec, là encore, un coach qui soit un petit peu dans la même mouvance, on dira d'un point de vue système, ça puisse recoller, rebooster. Manifestement, du côté du coaching staff d'Arizona, on ne voyait pas Steve Wilkes dans ce rôle-là. Apparemment, ils ont approché Mike McCarthy qui les a gentiment écourtés.
Oui.
Mais voilà, ça veut aussi dire, je pense, qu'Arizona va s'orienter vers un coach offensif pendant l'intersaison.
Giants 35, Cowboys 36. Les Cowboys ont joué à fond alors que c'était un match sans enjeu pour eux. Ils sont en quatrième, quoi qu'il arrive, de la conférence. Ils ont gagné en fin de match. Alors c'est facile à dire parce qu'il n'y avait pas eu de blessés. Mais est-ce qu'ils n'ont pas bien fait de jouer ce match à fond pour la confiance, pour cette remontée en fin de match, et puis pour un gros match de Dak Prescott, 27 sur 44, 387 yards à la passe, 4 touchdowns. Un touchdown énorme pour Cole Beasley en fin de match. Il y en a 3 pour Blake Jarwin. ils ont quand même construit des trucs offensivement en dehors d'Ezekiel Elliott qui lui était hors pot. Donc sur le papier, c'est quand même une bonne opération pour eux.
Bah alors c'est ça, alors, ça a vraiment été un super match en l'occurrence, alors qu'on n'en attendait pas monts et merveilles en l'occurrence. Oui, c'est un match où Dallas avait plus à perdre qu'à gagner, mais là très clairement, tu le disais, Ezekiel Elliott, on savait que ce serait prêt pour le mois de janvier. Ils avaient encore Tyron Smith et Zach Martin en plus au repos, je crois, sur ce match-là qui a priori devrait être de retour. Pour match de playoff, je vais pas trop m'avancer non plus, mais il récupère un Dak Prescott qui fait le plein de confiance avec en effet une très bonne partie, dont cette longue passe à destination de Cole Beasley sur une 4e et 10, dont cette conversion à 2 points qui offre la victoire à Dallas. Il se découvre un Blake Jarwin pleinement productif sur le poste de tight end, un poste où ils étaient quand même largement déficitaires depuis le début de la saison. Et ça confirmait aussi ce que je disais la semaine passée, c'est que défensivement, ils ont aussi une rotation très intéressante, où ils vont se retrouver par exemple avec un Sean Lee capable de d'être une solution de rechange sur le poste de linebacker. Donc, c'est honnêtement, ce match-là, ça place Dallas comme une équipe qui sera clairement pas bonne à prendre. Et le match contre Seattle, à domicile, contre une équipe qui les a battus en début de saison régulière, contre une équipe que connaît bien en plus Chris Richard, le... on dira coordinateur défensif officieux de cette équipe de Dallas, ça peut nous offrir un duel assez savoureux au premier tour des playoffs.
Du côté des Giants, Eli Manning fait un match à 24 sur 41, 300 yards de touchdown.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Une interception, il a été bien aidé par Saquon Barkley qui a plus de 100 yards au sol. Est-ce qu'il a sauvé sa place entre guillemets, ou en tout cas est-ce qu'il se donne une année de plus, Eli, en un mot?
Encore une fois, je pense qu'il n'a pas montré que de mauvaises choses cette saison, donc je serais pas étonné que Shurmur le remplisse avec lui. Après, je serais partisan de drafter un quarterback assez haut pour le former et pour éventuellement prendre la suite dès l'année prochaine.
Il y a eu des bonnes choses en défense aussi. Hein. Dalvin Tomlinson, dont on a pas un peu parlé, a bien remplacé Damon Harrison, qu'ils avaient envoyé quand même à Détroit pendant la saison. Il a 4 stops au sol sur ce match, et puis Oliver Vernon est à 2,5 sacs. Donc il y a aussi des éléments pour faire quelque chose en défense, mais c'est pareil, ça reste quand même à compléter hein, du côté de New York. Ça va être une grande intersaison. Sans enjeu non plus, Saints 14, Panthers 33, c'est la surprise de la semaine. Est-ce que la hype autour de Teddy Bridgewater est un peu calmée, Grégory? 14 sur 22, 118 yards, un touchdown, une interception dans ce match. Il était titulaire à la place de Drew Brees.
J'ai bien l'impression. En tout cas, il a été moins convaincant sur moi que Kyle Allen sur cette rencontre. Alors,
exactement.
C'est un peu comme le Carolina Atlanta de la semaine dernière, c'est des matchs qui sont difficiles à analyser parce qu'il y a clairement eu un turnover de chaque côté. Bon, voilà. Encore une fois, si on cherche des motifs de satisfaction, côté Saints, on pourra toujours dire que Tre'Quan Smith a montré de bonnes choses de nouveau dans les airs. Ils ont un Dwayne Washington qui s'est fait un petit peu la main sur le jeu au sol. Marcus Davenport également qui a mis un peu de pression, ce qui est intéressant pour un ancien premier tour de draft. Après, du côté de Carolina, Kyle Allen avait montré de bonnes choses lors de son court passage contre Atlanta la semaine dernière. Donc, il peut peut-être pousser pour être numéro 2 de Cam Newton l'année prochaine.
Il est sous contrat hein, pour l'année prochaine. Il est à 490 000 $, ça doit être le minimum, je suppose. 16 sur 27, 228 yards, 2 touchdowns. Clairement, Kyle Allen, c'est la bonne surprise. Alors, pour le situer, hein, j'ai vérifié sur le site. Alors, il y avait eu un top 10 ou top 20, je crois même top 20 hein, des quarterbacks avant la draft l'an dernier sur le site, et il était pas dedans. Donc d'où il vient, Kyle Allen, toi qui connais?
Alors, il a eu un parcours un peu tortueux en college football, ancien quarterback de Texas A&M notamment, mince, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas très
Pat Mahomes.
Enfin voilà, ouais. Non, il a fait partie de ces quarterbacks. Non, Texas Tech, Patrick Mahomes.
Ah pardon.
Non,
je l'ai confondu.
Il était à Texas A&M dans une période un petit peu compliquée des Aggies, dans les quarterbacks qui ont remplacé Johnny Manziel. Il y a eu notamment Kyler Murray, le dernier Heisman Trophy. Et c'est vrai que s'est un petit peu perdu, des petites sautes au niveau du mental notamment, et puis il s'est relancé un petit peu du côté de Houston l'année passée, où c'était pas extraordinaire non plus, c'était assez irrégulier, et c'est vrai que c'était un petit peu ce qui lui était reproché, ses failles mentales éventuelles, et puis bon, on va pas se mentir, c'était beaucoup aussi un quarterback qui avait une fenêtre préférentielle et pas grand chose d'autre. Voilà, peut-être que dans cette équipe de Carolina en fin de saison où les défenses sont un peu plus clémentes, il fait le plein de confiance. C'est de bon augure peut-être pour la suite, mais bon, c'est ce qui explique peut-être aussi le fait que il ait montré de bonnes choses malgré son statut de relatif anonyme en sortie d'université. Bon,
c'était la belle histoire de la semaine. Patriots.
Et puis signé le dernier match de Ryan Khalil en le centre des Panthers a priori. Donc voilà, il termine bien avec Carolina, donc c'était pour la mention.
C'est vrai. On passe en AFC au niveau des matchs qui concernent des équipes de playoffs mais qui n'avaient pas trop d'enjeux. Alors il y en avait un pour les Patriots quand même, pardon. C'était de s'assurer une semaine de repos. Ils sont deuxième grâce à leur victoire 38-3 contre les Jets. Est-ce qu'ils sont à leur meilleur au meilleur moment? Il y a une victoire qui est plutôt convaincante, une semaine de repos qui est décrochée, ils sont à deux matchs du Super Bowl et le premier match à domicile, et ils n'ont pas perdu à domicile cette année.
Bah en tout cas, Josh McDaniels a bien réajusté ses munitions. Je trouvais qu'au niveau du jeu au sol, c'était un peu mieux équilibré entre guillemets, même si ça reste fort logiquement Sonny Mitchell le principal dépositaire du jeu aérien. Après, on a un Tom Brady qui, après une très mauvaise semaine contre Buffalo, s'est bien remis en confiance et qui, voilà, en l'absence, malgré le dernier départ de Josh Gordon, arrive à trouver différentes cibles. Donc, oui, c'est sûr que c'est de très bon augure offensivement du côté New England. Même défensivement, il y a eu des pertes de balles.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Alors, certains diront que oui, c'est contre les Jets qui sont très très généreux en cette période de Noël. Mais c'est sûr que voilà, faut quand même aller les chercher, ces pertes de balles, et ça fait plein de confiance dans une saison et une période du côté New England qui est pas forcément la plus simple de l'ère Bill Belichick.
Oui, c'est une défense avec des, alors c'est un peu péjoratif, mais je trouvais pas d'autres termes, un peu des no-name, tu sais, un peu des anonymes, comme un JC Jackson par exemple, qui a 7 plaquages pour une passe déviée sur ce match. Ils arrivent encore à faire des choses avec sans super méga star en défense, même s'il y a des bons joueurs, hein. Stephon Gilmore fait une très grosse saison, il est très très bon, mais voilà, ils arrivent à faire des choses, donc ils vont être évidemment dangereux en playoff. Ils sont encore à deux matchs du Super Bowl,
comme souvent.
Pour les Jets, Todd Bowles est viré, il n'y a pas de pression sur le quarterback et il y a du mal à protéger leur propre quarterback, donc je pense qu'on est à peu près des axes au niveau du recrutement.
Oui, c'est ça. Bah, je pense que là aussi je serais pas étonné qu'ils aillent vers un coach offensif. On l'a mentionné plus d'une fois. Alors là, sur ce match-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sortent Deontay Burnett, le receveur, qui reste sur quelques sorties assez intéressantes. Je parlais de Chris Herndon, qui a montré de bonnes choses ces derniers temps du côté du poste de tight end. Après, il faut très clairement rebousser cette ligne offensive. Il faut très clairement avoir un meilleur jeu au sol, en tout cas un jeu au sol plus régulier, même si Isaiah Crowell s'est blessé il y a quelques temps de ça, pour mettre un petit peu moins de pression sur Sam Darnold et le pousser un peu moins à faire quelques interceptions. Mais très clairement, ça va être un gros gros chantier du côté des Jets, parce que défensivement, même s'il y a quelques réajustements à faire, ça paraît quand même assez solide sur le papier.
Texans 20, Jaguars 3, les Texans remportent la division. C'était pas hyper compliqué face à une attaque qui était quand même assez pitoyable. 119 yards au total, mais je crois qu'ils étaient à 75 ou 80 en entrant dans le dernier quart. Enfin, c'était une catastrophe. Houston a fait le taf face à une bonne défense quand même. Ils sont à 6 sur 17 sur 3ème tentative. Les playmakers ont été bons, JJ Watt en tête. Leur ligne reste quand même clairement le souci. Il y a encore 6 sacks sur Deshaun Watson. Je pense que c'est toujours ça l'inquiétude avec Houston, quoi.
C'est ça. Alors je sais pas si c'est à mettre au débit de Houston ou au crédit de Jacksonville, parce que je sais pas trop sur qui m'attarder, parce que les Texans, bon, encore une fois, comme tu dis, tout n'est pas extraordinaire, mais bon, en tout cas, ils gagnent un match où ils ne se sont pas vraiment fait peur non plus, malgré la bonne défense de Jacksonville en l'occurrence. Donc ça a été quand même assez costaud du côté de Houston. Deshaun Watson a été assez solide sans être extraordinaire. En effet, il y a un jeu au sol qui a clairement pas été là, puisqu'il me semble que le meilleur porteur de balle, c'est justement Watson.
Oui.
Voilà. Après, du côté de Jacksonville, on voit qu'il y a quand même une réaction du côté de la défense. C'est vrai que j'avais quelques doutes là-dessus. Jalen Ramsey est un peu mieux depuis quelques temps. Yannick Ngakoue et Calais Campbell font un énorme match sur cette partie-là. Alors, est-ce que c'est du seul fait de la O-line des Texans? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est déjà bien qu'il y ait une petite réaction d'orgueil. Et je pense que c'est ce qui a aussi motivé Shaikhan et Tom Coughlin à garder Doug Marrone en cette fin de saison.
Ce qui est pas illogique, sachant qu'il n'a pas vraiment eu de quarterback ces deux dernières années, même si c'était une décision quand même collective. Hein. Mais personne n'est viré. On a viré quelques coachs de position.
C'est
mais,
ça. Mais et gros point d'interrogation sur Leonard Fournette, notamment, dont l'avenir à Jacksonville est quand même un petit peu...
Oui, il s'est fait gronder très fort, hein, parce qu'il est resté à bouder sur le banc pendant tout le match.
C'est ça. Donc, et on a touché à son contrat, et on sait quand on touche à un contrat, au contrat d'un joueur, d'une superstar, quatrième choix de la draft, et dépositaire de l'attaque la saison passée, ça peut rapidement monter dans les tours.
Après, il n'a pas trop à la ramener, au sens où dépositaire de l'attaque, il n'était plus vraiment cette année. Il gagne même pas 500 yards au sol, il est tout le temps blessé. Donc
voilà, il a beaucoup été blessé. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais
il est tout le temps blessé depuis qu'il est à la fac, pour le coup, Fournette. Hein, donc
oui, mais l'année dernière, il était là. Donc tu sais que sur une saison où ça peut tenir, il peut quand même te faire une grosse campagne. Là, très clairement, c'est sûr que si on lui met une charge énorme. Sur tout au long d'une saison, c'est sûr que bon, ça peut être problématique, mais oui, je pense quand même qu'il sera en position de force malgré tout, mais à voir.
Broncos 9, Chargers 23, encore deux interceptions pour Philip Rivers, c'est ce qu'on s'inquiète un peu pour les Chargers avant les playoffs.
Un petit peu. Un petit peu, c'est vrai que Philip Rivers, je trouve, depuis quelques semaines, montre de moins bonnes choses. Enfin, depuis quelques semaines, il y a son match très compliqué contre les Ravens, où en effet le pass rush de Baltimore a mis au supplice sa ligne offensive qui était relativement bonne. Là, bon, il y a un bon pass rush en face, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'erreurs, je trouve. Il y a une dynamique qui est plus forcément là. Et bon, c'est pas forcément à dissocier des problèmes, des pépins physiques à répétition de ses running backs. Ouais. On a un Melvin Gordon qui est revenu, mais qui continue de traîner un petit peu la jambe une semaine avant de rejouer Baltimore. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et c'est sûr que défensivement, je pense que je l'ai déjà dit, je pense que les Chargers ont quand même la rotation, notamment sur les lignes défensives, pour pouvoir mettre en difficulté les quarterbacks adverses. Mais après en attaque, je sais pas, c'est pas l'équipe qui me rassure le plus, c'est pas l'équipe qui me paraît la moins à même de faire des turnovers.
Bah c'est oui, Melvin Gordon est touché à la cheville encore dans ce match et Philip Rivers en effet retombe un petit peu dans une irrégularité qu'il a parfois eu dans sa carrière. Il a été très très bon sur le début de saison, en tout cas sur la série où ils prennent vraiment de l'élan. Là ça se complique un petit peu, donc clairement les retrouvailles avec les Ravens, elles vont être assez costauds. Ce sera un match intéressant, encore une fois, dans la preview. Du côté des Broncos, Van Joseph est viré. Il y a une attaque à reconstruire, hein, notamment. Là, je pense que l'axe est assez clair aussi pour leur intersaison.
Malheureusement pour eux, il y a beaucoup de choses à reconstruire. Parce que même défensivement, c'est un peu tombé en décrépitude, à part le pass rush.
C'est vrai.
Il y a eu quelques bonnes surprises sur la D-line. Je pense à Shelby Harris ou Zach Kerr, mais... Bon, il y a quand même une osmose à retrouver et malheureusement pour lui, Van Joseph a un peu cassé beaucoup de choses, je trouve.
Chiefs 35, Raiders 3, victoire facile des Chiefs. On a beaucoup critiqué leur défense. Voilà qu'ils limitent les Raiders à 3 points avec 2 interceptions sur Derek Carr. Est-ce que c'est significatif avant les playoffs justement, ou est-ce que c'est Derek Carr et des Raiders sont en fin de cycle?
On va pas cracher dessus. On dira, mais c'est sûr que là, c'est un match où, je sais pas, les Raiders avaient l'air un petit peu en roue libre, un petit peu à l'image de l'interception, un petit peu, enfin le pick six un peu grotesque, provoqué par Jared Cook. C'est un peu compliqué. Cette équipe d'Oakland, elle était selon moi un petit peu en dilettante sur cette rencontre-là. Avec l'exemple, c'est un Doug Martin par exemple qui refait un match intéressant, mais qui commet de nouveau des pertes de balles. Donc c'est sûr que du côté de Kansas City, ça a fait le plein de confiance, ça confirme leur bonne saison régulière avec ce meilleur bilan de la conférence AFC. Mais bon, après tirer énormément de leçons de cette victoire contre Oakland, j'en suis pas persuadé.
Les Raiders, donc, eux, continuent leur reconstruction pendant l'intersaison. John Gruden n'était pas du tout inquiété, pour le coup, parmi les coachs. Donc, ça va continuer à reconstruire. Bills 42, Dolphins 17. Là, il n'y avait aucun enjeu. Josh Allen 17 sur 26, 224 yards, 3 touchdowns, 1 interception. 95 yards et 2 touchdowns dans 9 courses au sol. Je commence à monter dans le bandwagon, dans le train Josh Allen, qui est quand même un athlète assez exceptionnel et qui donne quand même un sacré allant. Lui et Sean McDermott, je trouve qu'ils donnent un sacré allant à cette équipe de Buffalo parce qu'ils font pas mal de choses avec pas grand chose.
Oui, je te rejoins. Là, en l'occurrence, c'est sûr que on a réussi à trouver des solutions. Alors certes, Josh Allen est toujours obligé de jouer pas mal au sol. Je crois qu'il termine meilleur coureur des Bills de nouveau sur cette partie. Mais voilà, il arrive à trouver des solutions, en effet, avec Zay Jones, Robert Foster, enfin les quelques cibles qu'il a, et en effet ça peut être de bonne augure. Là du côté de Buffalo, c'est sûr que c'est un peu ce que je disais sur les Jets, et c'est encore plus vrai selon moi, c'est-à-dire que défensivement il y a des bonnes choses, même s'il va falloir vraiment remplacer Kai Williams, le defensive tackle qui est néo-retraité. Mais offensivement, voilà, faut considérer un petit peu la ligne offensive pour bien protéger le quarterback, et faut trouver un jeu au sol performant et moins capricieux, coucou LeSean McCoy, et puis faut enfin trouver un vrai receveur numéro 1. Donc ça va être, il va y avoir mine de rien pas mal de chantiers pour Sean McDermott et le general manager Brandon Bean.
C'est ça qui est fou, c'est qu'ils font beaucoup de choses avec quand même pas mal de trous encore. Et,
oui, bien sûr.
Et du côté de Miami, par contre, Adam Gase lui est viré. Ryan Tannehill est à 27 millions en théorie l'an prochain s'il n'est pas coupé. Je pense que ça sent un peu la fin de cycle total.
Ouais, je pense que les deux mots importants dans ta phrase, c'est en théorie.
Voilà.
Là, très clairement, je ne sais pas dans quelle direction ils vont, les Dolphins. On le sait rarement depuis l'arrivée de Stephen Ross aux commandes. Mais je serais clairement pas étonné que le changement de cycle coïncide avec un départ de Ryan Tannehill, qui a quand même pas mal de problèmes de blessures également depuis quelques années.
Oui,
donc
sûr.
Est-ce qu'un nouveau coach a envie de redémarrer une ère avec un quarterback un peu fragile, que ce soit physiquement et mentalement? Parce que même quand Miami est revenu dans ce match-là, derrière, il a de nouveau mis l'attaque des Dolphins un peu dans le sac. Donc bon, malheureusement c'est pas une surprise, j'en parlais un petit peu. S'il y avait des routes à Buffalo, il risquait de prendre la porte. Et voilà, il y a eu des routes à Buffalo, à Minnesota, ça a été peut-être un petit peu trop quand même, malgré la saison, le début de saison assez correct de Miami.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Adam Gase, on en parlait justement, je rebondis parce qu'on vient d'apprendre, il va rencontrer les Cardinals mercredi. On parlait d'un coach offensif pour les Cardinals.
Tout à fait. Ah, mais il a quand même une petite cote en head coach, hein, parce qu'il y en a toujours qui diront qu'à Miami, le climat n'était peut-être pas propice, mais.
Oui, qu'il n'avait pas le matos, que machin.
Il peut être de nouveau sollicité pour être entraîneur principal.
Packers 0, Lions 31. Matt Patricia a bien sauvé sa place. Lui, en tout cas, il s'est évité des doutes, trop de doutes au Black Monday. Bon match, hein, 130 yards au sol. Ils ont bien joué, les Lions, clairement. Allez savoir si ça annonce du positif. C'est autre chose, mais là, on est dans la conjecture, quoi.
Ouais, je sais pas. Très franchement, j'ai pas vu l'image. Peut-être qu'elle est passée, mais je pense qu'à un moment donné, tous les joueurs des Packers se sont réunis sur le bord de touche avec une banderole « On s'en fout ».
Oui, alors ça, clairement, c'était l'autre partie de ce débrief, c'est que les Packers étaient à la rue. Ils commencent, alors, parce que si vous avez regardé juste les stats, vous dites « Oui, mais Rodgers est sorti en cours de match, etc. » Sauf que Rodgers, il est sorti après 3 three and out où ils avaient punté directement et il se passait rien. Il se passait c'est rien ça. De rien. Il n'y a pas eu de jeu au sol. DeShone Kizer est gentil, mais il n'est pas un titulaire a priori. Et voilà, il s'est rien passé pour Green Bay dans ce match.
Bah non, mais ce match, c'est les Detroit Lions contre DeShone Kizer. En gros, c'est un casting en réalité virtuelle. C'est-à-dire que voilà, alors en gros, sur cette phase de jeu là, tu vas passer. Sur cette phase de jeu là, tu vas courir. Sur cette phase de jeu là, tu vas passer. Et on s'est retrouvé avec une attaque de Green Bay qui bizarrement n'avançait pas.
Ah ouais,
donc voilà, et du côté de Détroit, bon, ouais. Au moins ils pourront se targuer d'avoir mis deux fessées à Green Bay cette saison, même si bon, la première, voilà, c'était aussi conditionné au field goal manqué de Mason Crosby, mais en tout cas, ils avaient quand même largement dominé le match aller au Ford Field. Là, ils se sont encore un petit peu baladés. C'est clairement pas ce qui me rassure quand même dans l'optique de la saison prochaine. On parlait des autres équipes, là, j'attendrai quand même de voir du côté de Détroit. Surtout que tu parlais de Matt Patricia, il y a quand même des rumeurs qui circulent comme quoi le head coach des Lions arriverait en retard au meeting.
Oui,
ça fait quand même un peu tâche.
Et ouais, et qu'apparemment il expliquait, il disait du genre, ouais, la ponctualité ça dépend en fait. Ça dépend, c'est pas toujours important. Ça dépend des trucs. C'est très bizarre.
Bah, va expliquer ça à tes joueurs, je pense qu'il y en a, oui. Parce que si tes joueurs arrivent en retard, je suis pas sûr que t'aies le même raisonnement.
Ouais, et puis pour le coup, c'est pas un raisonnement très courant en NFL en tout cas. Hein,
surtout pour un disciple de Belichick, quoi. Je sais pas.
Ouais.
J'aurais cru un poil plus discipliné.
Je suis pas sûr qu'il faisait la même à New England. Ouais. Buccaneers 32, Falcons 34. 6 punts pour commencer le match, mais une victoire au bout pour les Falcons. Matt Ryan, Julio Jones, Grady Jarrett, Desmond Trufant. Il y a des playmakers. Il y a plus qu'à trouver les bons coordinateurs maintenant que tout le monde est viré.
C'est un peu ça. J'ai été très très étonné de voir tous les coordinateurs sauter. Bon, alors après, pour parler du match en lui-même, c'est sûr qu'on s'attendait pas à énormément de choses. Deux équipes qui n'ont pas de jeu au sol, mais qui ont un énorme jeu aérien. Donc voilà, ça a arrosé de toutes parts, pardon. Et bon, au final, Atlanta, s'en sort, on dira, au niveau réalisme, quoi. Enfin, oui, en tout cas, en faisant des stops importants, notamment en deuxième mi-temps où ils ont été un peu plus incisifs. Après, très franchement, changement de coordinateur, j'attends de voir. Manifestement, Dan Quinn va récupérer la casquette de coordinateur défensif. Quand
oui,
on
il l'annonçait,
voit
ouais.
que c'est pas totalement évident. Sa gestion globale du vestiaire, je suis pas un grand partisan du fait qu'il récupère une casquette. Surtout que ça me paraît un peu une fumisterie parce que j'ai pas dans l'idée que Marquand Manuel ait un système défensif totalement différent de ce que peut faire Dan Quinn. Donc j'attends de voir, mais là très clairement, s'il récupère cette casquette-là, il va se mettre une grosse pression dans l'optique de la saison prochaine.
Et puis Jameis Winston, 22 sur 35, 345 yards, 4 touchdowns, une interception, tu l'as dit, ça a arrosé. Les Buccaneers ont annoncé, le GM notamment, Jason Leach, dire Jameis Winston, on y croit, c'est notre gars, il a du talent. Alors j'ai beaucoup aimé la phrase, il a fait beaucoup de choses à son âge que d'autres quarterbacks élites n'avaient pas fait. Donc il va falloir me donner les stats parce qu'il y en a quelques-uns à 24 ans qui avaient dû faire quelques petits trucs. Et puis surtout, donc Dirk Koetter est viré, ils ont choisi entre le coach et le quarterback. Je crois qu'on en avait parlé dans une autre émission en plus et ça semble quand même assez logique. Ils prennent. Alors Dirk Koetter est viré, c'est pas franchement une grosse surprise. Non. Est-ce que d'après toi, ils peuvent considérer d'offrir une promotion à Todd Monken, qui est leur coordinateur offensif, pardon, et qui va déjà avoir des entretiens ailleurs?
Franchement, je sais pas. Et alors moi, ce que j'espère justement pour Tampa, c'est qu'ils prendront pas la même direction qu'avec Koetter, parce que à l'époque, on avait dit il s'entend bien avec Jameis Winston, donc on veut pas qu'il s'en aille, on veut que ce soit lui, etc. Et alors peut-être qu'ils étaient très copains, mais ça a pas empêché les imbroglios au poste de quarterback et surtout les problèmes globaux, au niveau de l'attaque. Là très clairement, s'ils prennent exactement la même direction avec Monken, je serais quand même un poil sceptique. Il y a un nom que je suivrais, je sais pas pourquoi, mais Marvin Lewis à Tampa, je sens que c'est un truc qui va coller.
Non mais
honnêtement, j'espère pour Tampa qu'ils prendront pas cette direction, parce que déjà, est-ce que Jameis Winston est vraiment une solution à long terme, j'en sais rien. Mais il faudrait pas que du côté de Tampa on parte justement sur ce principe là, lui mettre vraiment une concurrence. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent aller chercher un Nick Foles, par exemple,
Faut surtout prendre un mec qui a entendu parler de la défense, quoi.
Oui, c'est clair. Alors, par contre, l'autre nouvelle importante du côté de Tampa, si tu me permets, c'est il me semble avoir vu une déclaration un peu bizarre de Gerald McCoy, qui sous-entendait une possible retraite imminente. En tout cas, il parlait beaucoup du passé en évoquant sa carrière avec les Bucks, donc... Je suivrai ça de près. Ça peut être une grosse perte quand justement la défense de Tampa est pas excellente ces dernières années d'un point de vue global.
J'ai une petite affection pour ces franchises qui sont tellement lamentables qu'elles poussent des super joueurs à bout, tu sais, que les mecs préfèrent se barrer.
Bon, après McCoy est un peu en fin de parcours, hein. Je crois qu'il a 31-32 ans maintenant, et c'est vrai qu'il est moins incisif qu'au début de sa carrière, mais ça reste quand même un gros leader de vestiaire et forcément un joueur qui peut faire du bien et être un relais du head coach.
C'est pas la même génération qu'Ndamukong Suh ou quelque chose comme ça?
Il a été drafté un ou deux ans avant.
Un ou deux ans avant ?
Oui, oui.
Ça me paraît.
Drafté en 2008, il me semble.
Je suis en train de vérifier. 2010.
2010, pardon.
2010, troisième choix.
C'est l'année d'après.
Donc tu vois, il n'est pas si vieux que ça. Il a 30 ans.
Je n'ai pas dit qu'il était vieux. Il a 30 ans seulement.
Il a 30 ans pile, il est en 88.
Bon, j'ai rien dit alors.
Donc,
30 ans, c'est très jeune.
Et il est troisième choix derrière Ndamukong Suh.
Ouais.
Tu vois ?
Ah ouais.
Donc.
Mes souvenirs sont complètement faussés sur la draft.
Voilà. Trop d'émotions les soirs de draft.
Apparemment.
Voilà, donc pour les Buccaneers, et du coup, on a parlé de tous les coachs virés. Je voulais faire un segment news spécial, mais Dirk Koetter, Buccaneers est viré, Adam Gase, Dolphins est viré, Steve Wilks, Cardinals, Van Joseph, Broncos, Todd Bowles, Jets, Marvin Lewis, Bengals, et Doug Marrone est conservé. On a fait le tour donc des matchs et des coachs virés. On passe au top et au flop. Greg, ton top de la semaine?
Eh ben mon top de la semaine, on lui tape beaucoup dessus, je trouve, Jason Garrett, head coach de Dallas, un coach qui, pour paraphraser notre camarade Raphaël Masmejean, se contente de taper dans les mains. C'est bien de temps en temps aussi, quand il est un peu couillu et que sur un match sans enjeu comme ça, il permet à son quarterback de faire le plein de confiance et à Dallas de s'imposer. Donc il a sans doute quelques limites et quelques lacunes sur le poste de head coach. Mais il sait s'entourer et il y a quelques moments où il est relativement inspiré, donc c'est bien aussi de le mettre en avant.
Bon, après, on est d'accord, hein, il se serait fait terminer s'il y avait un de ses joueurs qui s'était blessé dans ce match.
Mais c'est un match qui comptait pour du beurre, donc non, il a fait le plein de confiance.
Bon. Alors, moi, il y a deux tops. C'est Kyle Allen, parce que j'aime bien ce genre d'histoire de mec qui sort de nulle part. J'espère pour lui qu'il va se gagner une place de remplaçant et qu'il n'aura pas à vivre une intersaison galère, à être signé, re-signé, recoupé, practice squad, etc. Et puis, Kyle Williams, des Bills, le defensive tackle qui a quand même été exemplaire pendant des années à Buffalo, qui n'a joué que pour Buffalo, qui a toujours été quand même un des meilleurs dont on parlait le moins, peut-être à son poste, parce qu'il a quand même plein de très bonnes années. Et qui termine non seulement donc sa carrière ovationnée etc. et puis avec en plus une action offensive à laquelle il participe donc c'était quand même plutôt sympa cette manière et je trouve que ça c'est un truc aussi McDermott a bien su faire pour se mettre ça, tu te mets le public et les joueurs dans la poche avec ce genre de truc là en plus en faisant rentrer un peu le défenseur la légende locale en attaque qui capte un ballon il fait des trucs enfin voilà c'était un beau moment j'ai trouvé que c'était un beau moment. Ton flop.
Non, je suis d'accord avec toi. Flop, il y en avait beaucoup, mais parmi ceux dont on n'a pas parlé, bah quand même Jacksonville qui garde Doug Marrone, moi je persiste ici. Pour moi, c'est reculé pour pas grand-chose. Ils vont refaire une année. Je rappelle que Doug Marrone, quand il sélectionne des quarterbacks, il prend Idy Emmanuel au premier tour, donc voilà.
Il y a quelqu'un qui avait, en plus d'Idy Emmanuel, mais il y a quelqu'un qui avait sorti ça sur Twitter, je l'avais vu passer. C'est les quarterbacks sélectionnés en troisième choix par Jacksonville, parce qu'en plus de Blake Bortles, ils avaient déjà sélectionné Blaine Gabbert, je crois, en troisième position.
Oui, ben, non, pas en troisième position, il était numéro 10 à l'époque.
Ah oui.
Mais oui, Jacksonville, bah, c'était le successeur annoncé de David Garrard, mais en effet, oui, en poste de quarterback, Jacksonville, ça n'a pas toujours été ça. Ouais.
Ouais, ils ont une histoire assez douteuse.
Ils ont eu Garrard, Leftwich, enfin, bon, y a eu quelques loupés en l'occurrence, mais oui. Enfin, après, oui, ça, il peut y avoir un nouveau quarterback vétéran, peut-être Joe Flacco, mais après, est-ce que Doug Marrone sera capable de vraiment le booster quand on sait que c'est son irrégularité qui le caractérise, j'en suis pas persuadé. Mais voilà, c'est que mon avis.
Et puis moi j'ai pas d'idée pour les flops donc j'ai mis les Steelers. Voilà, c'est super pas original, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On est un lendemain de réveillon. On passe aux questions. Et en parlant de déception, c'est l'heure des questions. Et la première est signée Jujuju. Greg, quelle est la plus grosse désillusion de la saison, Vikings ou Packers? Pour Vikings quand même. Ils étaient censés être à
ouais,
un
Vikings.
Quarterback du titre.
La oui, plus grosse et puis, parce que vas-y.
Non,
bah, une grosse désillusion parce qu'en plus, voilà, cette dernière semaine, ils peuvent quand même le gagner. C'est un match à domicile contre une équipe qui joue quasiment plus rien. Bon,
en plus,
voilà, bref.
Plus grosse surprise, Bears ou Ravens?
Bah, Bears quand même.
Ravens, sur la manière quand même, je pensais pas que ce serait avec Lamar Jackson qui rentrerait
ouais,
et qui ferait que courir.
Ils ont quand
mais
même
après, ils ont une grosse défense.
Ils ont un gros effectif sur le papier. Voilà. Déjà, l'année dernière, ils devaient aller en playoff.
Bah, et puis, Bears, à partir du moment où on ne s'attendait pas à l'échange de Khalil Mack non plus, donc ça a créé toute une série de choses. La chose que vous retiendrez tout particulièrement, le renouveau des Browns, la révélation Mahomes ou le retour de Captain Luck. Bon, les trois.
Mahomes. Si je dois en sortir un plus particulièrement, Mahomes. 50 TD pour un quarterback. Enfin. Que moi, à titre personnel, j'attendais pas. On connaît mon amour pour Patrick Mahomes à sa sortie de la draft. Voilà, là, c'est sûr que
c'est vrai que
il m'a bien bluffé.
Moi, j'aime bien le retour de Luck quand même parce que c'était quand même compliqué ces blessures. Et le renouveau des Browns, rien que j'ai jamais été aussi heureux pour une équipe à 6 victoires. Les Patriots
7.
Vont 7, pardon, en plus, oui. Les Patriots vont-ils une nouvelle fois, alors je cite Jujuju, les Patriots vont-ils une nouvelle fois faire chier leur monde et aller au Super Bowl? Oui ou oui? Mais ils en sont pas loin. Hein.
Bah, du coup, on est obligé de répondre oui. Mais, non, mais en tout cas, oui, c'est... Honnêtement, le plateau AFC, j'irais plutôt sur New England ou Baltimore. Mais New England, c'est sûr qu'offensivement, voire défensivement, on l'a dit, il y a quand même des joueurs capables d'être opportunistes.
Mais c'est,
ça reste pour moi le favori au niveau de la conférence américaine.
Mais c'est ça, ouais, qu'il reste au final largement dans le coup. Tiens, question de Floriders. Mike Mayock est le nouveau manager général des Raiders. Qu'en pensez-vous? Bonne idée, car analyste en draft reconnu, ou fausse bonne idée, parce que qu'est-ce qu'il y connaît en négociation de contrat et au poste de GM dans son ensemble? Donc, question de Floriders. Moi, je vais te dire tout de suite, je suis toujours méfiant du facteur « Ouah, il est trop fort à la télé ». Parce que ça veut pas dire grand-chose. Les mecs qui ont l'air beaux à la télé et qui ensuite reprennent un poste et se plantent, c'est pas une nouveauté, il y en a eu quelques-uns.
C'est
sûr. À la télé, on a toujours l'air mieux. Hein. Donc voilà, après, comme dit Floriders, il n'est pas GM de formation. Après, il connaît suffisamment le monde de la NFL pour y évoluer depuis des années, pour avoir des notions quand même.
De toute façon, on va pas se mentir, c'est pas lui qui va prendre les décisions in fine. C'est un general manager de facto par rapport à son statut, mais...
Ah, pour toi, c'est un homme de paille pour John Gruden, en fait.
Pour moi, c'est un scout version XXL, quoi. C'est quelqu'un qui va être capable de partager ses opinions, d'avoir une vision globale de l'évaluation du talent, parce que encore une fois, les Raiders ont trois premiers tours de draft, donc vont clairement mettre l'accent dessus. Après, c'est John Gruden qui, je pense, aura le dernier mot. Vaut mieux quand même qu'il écoute Mike Mayock, parce que pour ceux qui se rappellent, quand il a débarqué, quand il a tout fait pour dégager Rich McKay à Tampa Bay, ses choix de draft, ils étaient pas bien fameux. On sait qu'il cherche un receveur numéro 1. À l'époque, c'était quand même Michael Clayton et Maurice Stovall. Vends-moi du rêve, quoi. Donc, à un moment donné, j'espère qu'il va quand même tendre un petit peu l'oreille. Parce que sinon, pour Oakland, ça va être une draft un peu compliquée.
Après, la question de Floridor, ça se tient sur le fait que... Alors, je suis d'accord avec toi, Scoot XXL, etc., mais il est nommé GM. Donc, c'est vrai que GM, en théorie, bah, il doit gérer la free agency, il doit signer des emails, il doit négocier des contrats, quoi. Et Gruden n'est pas non plus censé avoir le temps de faire tout ça. Donc...
Non, mais bah, ce sera fait en concertation. Encore une fois, il y a aussi des assistants qui vont être là pour gérer. Il y a les fameux, comment ils appellent ça, les directeurs du personnel. Voilà, vous inquiétez pas, avec tous les entretiens que General Manager ont à passer, ils délèguent ce genre de choses. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une connaissance globale. Mais bon, je pense pas que Mike Mayock il accepte un job s'il a pas conscience de ce genre de choses. Je pense qu'il a croisé 2-3 general managers dans sa carrière d'analyste.
Oui.
Je pense qu'il connaît un peu les impératifs des uns et des autres. Après, est-ce qu'il sera capable de le mener à bien, faut voir. Mais John Gruden l'a fait quand il était à Tampa Bay, donc je pense qu'il aura quand même un œil assez avisé là-dessus.
LW75, que pensez du choix de Matt Nagy pour cet ultime match des Bears, c'est-à-dire de laisser les titulaires jouer et battre les Vikings pour finalement affronter les Eagles, champions sortants et sans pression vu leur saison, thème à développer, risque de la blessure, semaine de repos, dynamique de la victoire, inexpérience, etc. Est-ce que tu crois qu'ils auraient dû perdre pour pas affronter les Eagles, voilà, pour être simple déjà?
Moi, non, non, parce que de toute façon, et j'en avais parlé, s'ils perdaient, ils prenaient le risque de recevoir Minnesota en première semaine de playoff. Et là, s'ils avaient perdu contre les Vikings, on aurait dit, dis donc, ils sont trop cons, parce que s'ils avaient gagné à Minnesota et s'ils avaient dégagé des playoffs, ils ne seraient pas éliminés au premier tour.
Moi,
donc il n'y a pas de vérité absolue, en l'occurrence.
Je suis de l'école qui lâche aucun match. Si tu dois aller au bout, tu bats ce qu'il y a à battre et point barre.
Et puis rien ne dit que les Eagles sont favoris. Ils vont reprendre leur rôle préféré d'underdogs. Mais va falloir que les Eagles y gèrent cette défense de Chicago, c'est clair.
Et c'est ça. Alors, il y a une mystique qui s'est créée par rapport à l'an dernier, etc. Mais les faits restent que les Bears sont supérieurs aux Eagles, en défense en tout cas, absolument, actuellement.
Oui, chaque année, ils vont pas gagner le Super Bowl juste en se disant, tiens, on va se mettre un masque de latex et puis comme ça,
c'est
ça va passer, quoi.
C'est ça. Donc là, ils restent quand même outsider et ça passera pas tous les ans avec Nick Foles et sur la magie. Et ils sont quand même un peu inférieurs à ce qu'ils étaient l'an dernier. Donc et il n'y a pas l'effet de surprise, voilà.
C'est
donc
c'est
quand même.
Et ils joueront à l'extérieur, ce qui était clairement différent par rapport à l'année dernière.
Aussi. Donc voilà, même s'ils passent les Bears, c'est pas dit qu'ils en gagnent deux autres pour aller au Super Bowl, quoi. Donc,
on est d'accord.
Comment les Vikings peuvent-ils avoir une attaque au niveau de leur défense? Question d'Étienne Munoz.
Bah écoute, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, il faut considérer, il y a au moins deux ou trois joueurs à récupérer sur
la ligne
offensive.
Ouais. Il y a quelqu'un qui lui a répondu dans les commentaires, qui a répondu en baissant le niveau de la défense.
C'est pas faux aussi.
Après le licenciement du coach Vance Joseph, qui voyez-vous de plus crédible pour prendre les rênes de Denver, et quel quarterback free agency voyez-vous potentiellement à la place de Case Keenum? Question de Dinosaur 76. Alors je sais que quelqu'un d'autre, je suis désolé, j'ai plus le pseudo en tête, mais avait posé une question sur Denver en proposant est-ce qu'on draft et qu'on garde Keenum, etc. Enfin, c'est vrai que c'est une des questions, des situations les plus intéressantes à Denver, parce que y a besoin d'un nouveau coach, mais il y a aussi besoin vraiment d'un nouveau quarterback, en tout cas de redynamiser toute une attaque.
Ouais, alors forcément les deux questions pour moi sont quand même liées, parce que c'est l'identité du nouvel head coach qui déterminera dans quelle direction il faut aller au niveau du quarterback. Après, je sais pas. Je sais que c'est un nom que je te sors un petit peu à toutes les sauces, mais je suivrai de près le coach des équipes spéciales de Kansas City, Dave Toube.
Oui, tu aimes beaucoup.
Puisqu'on disait qu'en attaque et en défense, il y a beaucoup à faire, autant avoir un coach qui va superviser tout ça. Et en l'occurrence, Dave Toube, disciple d'Andy Reid, qui connaît bien Doug Peterson, il pourrait peut-être récupérer Nick Foles également. Je parlais de la piste Tampa. Nick Foles à Denver, ça pourrait avoir du sens aussi pour donner peut-être plus de verticalité à l'attaque des Broncos. Donc,
ouais, Après, c'est vrai qu'avec une cuvée de draft qu'on annonce faible, alors là, je parle sous tout contrôle parce que je l'ai pas encore étudié, mais voilà, ça va être compliqué pour beaucoup d'équipes hein, qui cherchent quand même cette intersaison des solutions. Autant l'an dernier, si tu voulais changer de quarterback, il y avait des options. Autant là, c'est quand même un peu compliqué.
Bah, ça va être des projets. Ça va être des projets, des joueurs à couver dans un premier temps et enfin, bon, peut-être pas espérer les voir titulaires dès la première semaine.
Après, c'est ce qu'on disait de Carson Wentz, non?
Je sais plus. Oui,
ouais,
c'est possible.
Ça me dit quelque chose. Hein. Bon,
ouais. J'avais comparé Carson Wentz à Alex Smith.
T'avais comparé, c'est vrai?
Oui. Est-ce que je me suis trompé tant que ça? Je sais pas.
Je sais pas non plus. Je sais pas. Question de d'Arnold et Willy. La saison régulière terminée, il est pour beaucoup d'équipes temps de penser au futur. Et qui dit futur dit draft. On sait déjà que cette QV ne sera pas folle niveau quarterback. Mais qu'en est-il des running backs? Y a-t-il un gros prospect du niveau de Barkley? Et est-elle aussi dense que l'an dernier avec Sonny Mitchell, etc.? C'est vrai qu'on parle beaucoup de la QV de quarterback. Mais alors, est-ce que les running backs, c'est le moment de dire un petit mot? Est-ce que ça, ce sera bien?
Eh ben, j'ai pas l'impression pour l'instant. En tout cas,
Je sens qu'on va faire un podcast preview avec uniquement des defensive tackles cette année.
C'est pas impossible. je ne te le cache pas, c'est une forte possibilité. Mais non, très clairement, les running backs, à l'heure actuelle, si je devais faire une mock comme ça pour m'entraîner, j'aurais pas de running back au premier tour.
D'accord. Et dernière question, on va prendre celle de Jim Browns. Ça va nous faire une petite ouverture vers la mission de jeudi. Parmi les équipes en playoff, laquelle vous semble la plus faible, laquelle peut créer la surprise, laquelle n'y sera pas la saison prochaine?
Attends, redis-moi. Dans l'ordre.
L'équipe la plus faible en playoff.
Alors, si je viens à Houston, je vais me faire des copains.
Houston, Philly ou Houston?
Ouais, peut-être Philly, mais Houston, je sais pas, il y a beaucoup d'impondérants. On parlait de la ligne, mais Deshaun Watson, on sait pas ce qu'il va donner en playoff, même s'il est très solide depuis qu'il est bien revenu de blessure. Donc, je sais pas.
Je dirais
peut-être Houston ou Dallas. Mais Dallas, je les mettrais plus comme équipe qui n'aura pas en playoff l'année prochaine.
Alors bon, Dallas pour toi pas en playoff l'année prochaine. Moi je vais dire Houston ou Philly sur la plus faible dans le plateau actuel. Alors laquelle peut créer la surprise? Bah moi je vais dire Chicago. Ouais, Chicago aussi.
Bah ouais, Bears. Alors après ça dépend si t'appelles ça une surprise, mais bah, Ravens ça peut largement faire Super Bowl. Hein.
Ouais.
Même avec Lamar Jackson à sa tête.
C'est ces deux-là, hein, c'est Bears ou Ravens, c'est les deux énormes défenses en fait quoi. Donc.
Et puis après. Mine de rien, Dallas, on peut les mettre dans les trois catégories parce que.
Oui.
Si Dak Prescott fait des bonnes playoffs et continue sur son match face aux Giants, offensivement et défensivement, c'est quand même assez costaud.
Ouais, j'allais dire, c'est ça. Moi, je peux pas les mettre dans les plus faibles parce qu'avec Ezekiel Elliott d'un côté, avec la défense qui s'est développée de l'autre, je peux pas les mettre dans les plus faibles quand même.
Non, ça dépendra beaucoup de la ligne, je pense, du côté de Dallas, mais la ligne est efficace. Ça peut être une équipe très enquiquinante.
Et alors, qui ne peut ne pas y être l'année prochaine? Donc, tu dis Dallas.
Et Houston.
Je vais te dire les Patriots si Tom Brady prend sa retraite après un dernier titre.
Ouais.
T'as vu comment je joue la feinte pour répondre
à cette
question?
Putain, ouais, ça fait beaucoup de conditions. Hein. Mais je l'ai pas dit dans mon article de vendredi dernier, mais Belichick peut très bien prendre sa retraite à la fin de la saison. Hein. Moi, je pense plutôt que ce sera en fin de saison prochaine, si je devais faire des paris. Mais
aucun rapport, mais une petite blague. Ouais. Aucun rapport, mais une petite blague. Je sais pas si tu as vu, on parlait de retraite et de Super Bowl. Il y a Josh Norman qui a dit: dès que je gagne un Super Bowl, je prends ma retraite. Ouais, donc d'accord. Je peux t'annoncer que Josh Norman va jouer jusqu'à 48 ans.
Bon, oui et non, parce que à mon avis, il y a de fortes chances qu'il soit cuté par Washington pendant l'intersaison et il peut très bien aller chez New England ou ailleurs pour.
Alors ouais, c'est peut-être sa meilleure option pour gagner un titre en l'occurrence. Ouais.
Washington, ça me paraît un peu compromis à l'heure actuelle.
C'est ça, je voyais ça sous l'angle Washington, je voulais être un peu mauvaise langue. Bon, allez, voilà pour donc les questions, on va finir sur le 2-minute warning. Une seule question, Greg, où va aller Antonio Brown l'année prochaine?
Oh là là, ah non, je ne l'ai pas préparé celle-là. il sera échangé, donc pas en AFC Nord.
C'est ça.
Il y a la cote des Patriots qui revient vu qu'ils ont des besoins de receveurs, mais est-ce que Pittsburgh va prendre le risque de trader Brown chez un concurrent direct?
Je
serais pas étonné que ce soit en NFC. San Francisco, ça pourrait avoir du sens. Il me semble qu'ils ont un petit peu de cap. Après, est-ce que Indianapolis peut tenter le coup?
Non. Ouais, ce serait bien un truc à la Jim Irsay.
Ils sont déjà possiblement. Il y a déjà des liens avec Le'Veon Bell, si on se rappelle de certains tweets du running back des Steelers. Ils vont peut-être pas prendre tous les joueurs de Pittsburgh, surtout les joueurs à problème. Mais non, je sais pas trop. Non, San Francisco, pourquoi pas, écoute.
Et au moment où je te parle, il y a Ben Roethlisberger qui vient de donner une information, une interview où il dit qu'il ne, il n'a absolument pas vu Antonio Brown s'énerver. Il ne sait pas d'où vient l'info. Donc c'est juste pour vous dire que la situation est toujours plus
rassurée.
C'est comme ça que se termine l'épisode 276 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics évidemment. Et ce sera donc une preview avec 4 matchs seulement parce qu'on rentre enfin dans les playoffs. Dimanche ce sera le fauteuil. Non, alors dimanche ou samedi d'ailleurs, c'est une bonne question. Dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous voulez que je fasse le fauteuil parce que je suis un peu perdu moi-même et il faut que je retrouve. Je sais plus quand on l'avait fait l'an dernier. Est-ce qu'on l'avait fait le samedi avant les matchs?
Je sens que c'était le samedi.
Ouais. Bon, alors je vais peut-être faire un fauteuil du samedi soir, un Saturday Night fauteuil. voilà, on vous rappelle donc que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On qui ont lieu les dimanches de playoff. Et on vous rappelle évidemment qu'on sera au Hard Rock Café mardi prochain, c'est le 8 janvier. L'enregistrement de l'émission est à 19h. Il y aura un happy hour étendu en plus pour ceux qui viendront. Et Sébastien Séjean sera là, il est passé par les Rams et il répondra à nos questions. Merci beaucoup, Grégory.
Merci à toi.
On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sur iTunes, SoundCloud, à vous abonner, tout ça, tout ça. On est sur toutes les plateformes. On vous remercie encore une fois pour nous suivre. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier. Les réseaux sociaux, c'est @TieloRadio, ça pour mon camarade Grégory sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même. On vous laisse en musique. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Une très bonne année d'ailleurs. Très bonne année à tous puisqu'on enregistre le 1er janvier. Merci beaucoup de nous suivre. Encore une belle année avec vous et on vous dit à très bientôt sur tdactu.com. Ciao ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.